France Musique.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'agenda de l'été sur France Musique. Toute l'équipe et moi-même avons hâte de vous faire écouter ce que nous vous avons préparé aujourd'hui, un 12-13 qui célèbre aujourd'hui les instruments spéciaux, l'orgamande, le cornet à bouquin, la bombarde bretonne, la quenelle d'Estonie ou encore la nickel harpa suédoise. Notre tour de France va nous emmener aujourd'hui sur les chemins musicaux du Var, des Hauts-de-France, de l'Isère, de la Creuse, des Côtes-d'Armor, de la Seine-et-Marne, de la Haute-Loire et de la Suède. De 12h15 à 12h30, le docteur Damien Doge nous parlera de la musique chez Gustave Flaubert et à 12h50, nous partons en Suède pour suivre l'évolution d'une polka traditionnelle. Que pensez-vous de la civilisation occidentale? C'est ce qu'un journaliste aurait demandé à Mahatma Gandhi, ce à quoi il aurait répondu « Oh bah oui, ce serait une bonne idée ». Zion spricht, Sion parle de Johann Hermann Schein, musique allemande du XVIe siècle par le chœur de chambre de Dresde sur France Musique. Tendez l'oreille si vous êtes dans le Var en ce moment. Il y a ce festival de jazz dont nous vous parlons depuis plusieurs jours, Jazz à Ramatuelle. Eh bien, nous avons des places à vous faire gagner. C'est demain à 21h au Théâtre de Verdure de Ramatuelle avec sur scène rien de moins que Rhoda Scott, l'organiste américaine de jazz, née en 1938, qui a débuté chez Count Basie. Elle sera avec les Ladies All Stars, et je ne vous dis pas toute la liste de ces ladies, mais si je vous dis quand même R.L. Besson et Anne Passeo, ça devrait quand même vous donner une idée du côté incontournable de la soirée. Pour jouer, rendez-vous sur l'onglet Contactez-nous de la page de du jour de l'agenda de l'été sur francemusique.fr et répondez à cette question. Que reste-t-il de nos amours? 1. Un souvenir qui me poursuit. 2. Un chemin de petit bonhomme. Ou 3. Un gris boulanger qui bat la pâte à plein bras. Que reste-t-il de nos amours? Vous pouvez relire la question sur la page de l'agenda de l'été sur francemusique.fr. Bonne chance, soyez rapide. Thank you. Voilà, que reste-t-il de nos amours? Rhoda Scott à l'orgue à monde, Sophie Allour au sax ténor avec le Lady Quartet. Avant de passer un quart d'heure avec Flaubert et Berlioz, un détour du côté des Hauts-de-France, au château de l'Ermitage à Condé-sur-Lescaut. C'est demain à 20h30 et je me permets de vous le recommander. La montagne et l'enfant, spectacle entre théâtre, poésie et musique par l'ensemble Agamemnon. Une rencontre entre un enfant et une statue qui fait comprendre la folie des hommes. Et ce sera accompagné par de la musique italienne du XVIIe siècle. Une ritournelle de l'Orfeo de Luigi Rossi par les Scherzi Musicali France Musique, il est 12h16. Je reçois aujourd'hui en studio un docteur en littérature, Damien Dauge, spécialiste de littérature et musique, et plus particulièrement de Gustave Flaubert et la musique. Bonjour Damien.
Bonjour Christophe.
Alors on parle depuis lundi sur cette antenne du festival Berlioz à la Côte Saint-André, festival qui dure du 17 au 30 août. Vous y serez en qualité, alors non pas de musicien, mais en tant que spécialiste, puisque tous les jours de la programmation musicale se double de conférences, de communications, de colloques et de clés d'écoute. À partir de samedi à 15h, colloque sur Berlioz, Flaubert et Lorient, au salon, aux Gypseries, à Saint-Antoine-l'Abbaye. Vous serez dans la matinée de dimanche à l'auditorium du musée Hector Berlioz pour une communication sur Flaubert, est-il le Berlioz de la littérature? Tout un programme. Alors déjà, Damien Dauge, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi Flaubert cette année au festival Berlioz?
Alors 2021 est une grande année pour Flaubert, puisque nous fêtons son 200e anniversaire. Et dans le cadre de ce bicentenaire, que vous pouvez découvrir sur le site flaubert21.fr, eh bien, il y a tout simplement plus de 200 événements qui ont été organisés et labellisés, des événements qui ont lieu principalement en Normandie et qui vont courir jusqu'en juin 2022.
Et vous, vous travaillez donc pour ce bicentenaire?
Oui, c'est ça. J'ai fait partie du comité qui était chargé de labelliser tous ces événements. Donc il y a aussi bien des grandes expositions que des spectacles vivants, des escape games et quelques concerts, bien évidemment.
Et des plaques dans des rues?
C'est ça, oui. Il y a même quelques plaques à Rouen. Il y a aussi du street art. Plein de façons de faire vivre Flaubert sur ces territoires.
Moi, ce que j'aime bien, c'est la plaque qui a été laissée sur l'esplanade Marcel Duchamp à Rouen.
Oui, c'est une petite plaque que j'ai installée il y a quelques années à l'endroit précis où Emma Bovary n'a jamais pris de leçons de piano, puisque donc elle avait mieux à faire avec ses amants.
Alors vous avez écrit une thèse sur Flaubert et la musique. Alors finalement, encore une fois, pourquoi Flaubert? C'est pas un auteur qui a particulièrement bonne réputation auprès des musiciens?
En effet, Flaubert n'appartient pas à la grande lignée des écrivains français mélomanes. On peut penser à Rousseau, Diderot, Stendhal ou Balzac, ou évidemment Proust. Certains critiques ont même évoqué une forme de mélophobie. Je dirais plutôt qu'en fait, il était mélomanophobe, c'est-à-dire qu'il rejetait la mélomanie. Flaubert était attristé par la démocratisation de la musique. Je ne sais pas ce qu'il aurait pensé de France Musique, mais en tous les cas, il s'insurge contre cette mode, cette mélomanie qui veut que tout un chacun possède un piano. Il dit que le piano est indispensable dans un salon. C'est ironique, c'est dans le dictionnaire des idées reçues. Et il s'insurge contre le fait que tout un chacun se prenne pour un esthète, voire un artiste, dès qu'il évoque la musique. Le propre du véritable musicien, c'est de ne composer aucune musique, de ne jouer d'aucun instrument et de mépriser les virtuoses. C'est la définition qu'il donne du musicien dans le dictionnaire des idées reçues, où on voit en fait que le simple mélomane se prend pour un artiste, et alors même que Flaubert se faisait une idée de l'art comme un travail acharné. On sait combien de temps il passait sur chaque page de roman.
Et dans ces pages, on y trouve de la musique, alors pas beaucoup, toujours employée peut-être au second degré, par exemple dans Madame Bovary.
Oui, en effet, alors il y a de l'ironie et du sarcasme, hein, dans les postures sociales des différentes activités musicales. Mais d'une part, Flaubert s'attaque à toutes les strates du monde musical, hein, du simple spectateur d'opéra jusqu'au ténor. Et d'autre part, derrière cette ironie, on trouve aussi de très beaux passages à propos de l'écoute, des effets que la musique provoque sur les corps, mais aussi sur la façon dont on peut intérioriser la musique, etc. Et c'est le cas notamment dans le célèbre passage de Madame Bovary à l'Opéra de Rouen.
Et on y écoute
Donizetti.
Voilà. Il dolce suono, tiré de l'acte 2 de Lucia di Lammermoor, mort, Edita Gruberova, était accompagné par le LSO, dirigé par Richard Bonning. Là, c'est de la musique que l'on peut trouver dans les pages de Gustave Flaubert, mais il y a aussi de la musique composée à partir de Gustave Flaubert, Damien Doge.
Oui, Flaubert a été mis en musique, c'est vrai. De ce point de vue-là, il est intéressant de comparer le sort réservé aux deux romans les plus célèbres, Madame Bovary et Salammbô. D'une part, Madame Bovary, on trouve beaucoup de musique populaire, des chansons notamment, qui témoignent du succès du roman et de la notoriété de son personnage. Et finalement, assez peu de musique savante, quelques opéras, des pièces plus contemporaines ou des musiques de scène ou des bandes originales de films. Et d'autre part, Salammbô, on trouve cette fois presque pas de musique populaire, à part une chanson d'Arthur Ashe, et au contraire, beaucoup d'œuvres savantes, d'opéra, et ce, dès la parution du roman. Et Flaubert a même accordé une exclusivité à Ernest Reyer, 5 mois avant la parution, donc pour qu'il compose un opéra sur Salammbô.
Ernest Reyer, oui, c'est pas le compositeur le plus connu du 19e français. Oui.
Non, mais il jouissait à l'époque, en 1862, d'une belle notoriété. Donc pour Flaubert, c'était tout à fait possible, lui qui refusait les illustrations dans ses éditions. C'était pour lui un honneur que de voir un compositeur comme Reyer lui proposer un opéra sur Salambo.
Oui, finalement, c'est quelque chose qu'on peut trouver aujourd'hui, qui est un peu cinématographique. Les cinéastes qui se précipitent sur les romanciers pour prendre les droits.
Oui, c'est ça. Et très nombreux sont les compositeurs qui ont voulu, même du vivant de Flaubert, composer un Salambo. Le projet officiel, si on peut dire, cautionné par Flaubert, a même failli se transformer et prendre une toute autre ampleur, puisqu'il a été question, un temps, que ce Salambo soit un opéra composé par Verdi sur le canevas de Flaubert, mis en vers par le poète Théophile Gautier, et que ce bel opéra fasse l'inauguration du nouvel opéra de Paris, le Palais Garnier.
Alors on va l'écouter non pas par Verdi, mais par Reyer, une rareté, puisque c'est quasiment le seul enregistrement de ce Salambo de Reyer. Rare, un extrait du Salambo de Reyer, c'est Albert Wolff qui dirigeait Germaine Martinelli dans L'ère des colombes, tiré de l'acte 2. Flaubert est-il le Berlioz de la littérature? C'est le sujet de votre communication, Damien Doge, dimanche matin à l'auditorium du musée Berlioz de la Côte-Saint-André. Ben oui, Berlioz et Flaubert, est-ce qu'ils se sont rencontrés?
Alors Berlioz a été absolument enthousiaste à la lecture de Salambo. Berlioz était à ce moment-là en pleine création de son grand opéra Les Troyens, qu'on pourra d'ailleurs entendre lors du festival. Berlioz a même demandé quelques conseils scientifiques à Flaubert sur les costumes phéniciens et carthaginois.
Alors pourquoi à Flaubert d'ailleurs ?
Eh bien parce que Flaubert était finalement très érudit à ce moment-là. Il venait de passer des 4 ans à rédiger Salambo et à lire tout ce qui se faisait, tout ce qui avait été publié à l'époque sur l'Antiquité. Et donc la rencontre entre Berlioz et Flaubert a très certainement eu lieu le 10 juillet 1863. Malheureusement, c'est seulement après la mort de Flaubert, à la lecture de la correspondance de Berlioz, que l'écrivain va regretter « Pourquoi ne l'ai-je mieux connu ? Je l'aurais adoré. »
Donc Flaubert est-il le Berlioz de la littérature ? On va pouvoir savoir tout ça dimanche matin à l'auditorium du musée Berlioz de la Côte-Saint-André. On écoute un extrait de l'ouverture des Troyens dirigée par Charles Dutoit.
Thank you.
L'ouverture des Troyens d'Hector Berlioz par l'Orchestre Symphonique de Montréal, dirigé par Charles Dutoit. Merci beaucoup, Damien Doge.
Merci, Christophe.
France Musique, il est 12h30. Vous écoutez France Musique. Comme tous les jours, nous vous donnons la parole pour nous raconter les festivals et les concerts côté public, côté fauteuil. Aujourd'hui, c'est Paula qui nous raconte le festival Le Bruit de la Musique, pour lequel elle est bénévole dans la Creuse depuis quelques années. Le Bruit de la Musique, c'est un festival assez incroyable et qui, je dois dire, a trouvé exactement comment mettre en scène la musique expérimentale et quelquefois abstraite pour la faire vivre de la façon la plus confortable possible. Ah, et j'allais oublier aussi, Paula a 11 ans. C'est un peu mignon.
En fait, pour moi, la musique abstraite, c'est de la musique qui n'est pas normale. Enfin, moi, j'aime bien parce que bah, c'est marrant, ça fait plein de sonorités différentes. Et pour certaines personnes, ça pourrait paraître pas beau ou désagréable à entendre. Mais moi, je dis que si on se concentre bien sur la musique, ou si au contraire, on ferme les yeux et on écoute juste, eh ben, ça fait vraiment... très agréable à écouter.
Paula fait donc partie des bénévoles de ce festival Le Bruit de la Musique qui entame aujourd'hui sa 9e édition. Le principe de ce festival, c'est de diffuser dans les fermes et les églises de la Creuse, à Saint-Sylvain, sous tout, Domérot, tout, Sainte-Croix et Clugnat, de la musique d'expérience, de laboratoire, d'atelier, de la musique qui pose des questions dont les réponses passionnent les creusois. Qu'est-ce qu'on entend quand on ralentit le corps pour aller à la vitesse d'une vache? Que se passe-t-il exactement dans cet intervalle entre juste avant et au tout début du son? Existe-t-il des sons en dehors des choses? La question qu'on peut se poser aussi, c'est comment les enfants reçoivent la musique abstraite, comme dirait Paula.
Chacun a sa vie de musique, et même si je dis aux gens, mais si écouter c'est agréable et tout, et ben ils n'aiment pas forcément. Je suis le seul enfant bénévole, du coup je me fais des copains chaque année. Mes copains, quand ils viennent, en fait, ils n'écoutent pas forcément la musique, c'est leurs parents qui leur ont dit de venir, ou voilà. Et du coup, ben, ils n'écoutent pas tellement, ils sortent de la salle de spectacle et tout, ils sont pas forcément à écouter ce qui se passe. Et justement, ils trouvent ça ennuyant et tout, du coup, je leur dis d'écouter un peu, et après, s'ils aiment pas, ils aiment pas.
La musique estonienne sur France Musique du compositeur Teno Korvits pour voix, cannelle et cordes. Cannelle, c'est cet instrument estonien à cordes pincées que vous pourrez entendre par une vraie estonienne, Anna-Liisa Heller, à 15h à l'église de Tout-Sainte-Croix dans la Creuse. N'hésitez pas à jeter un œil à la page de l'agenda de l'été sur francemusique.fr. Tous les renseignements y sont et je ne serais pas surpris si vous y trouviez des concerts du côté de chez vous. Alors du côté de chez vous, dans les Côtes d'Armor par exemple, à Guingamp ou Gwengan en breton, ce week-end, normalement, le festival de danse de Saint-Loup ne devrait pas trop passer inaperçu puisque c'est en plein air, dans les rues, avec des spectacles de danse bretonne au jardin public et sur la place du Petit Vailly, ou encore avec une messe en breton à la basilique Notre-Dame. Tous les événements sont gratuits cette année et pour soutenir la restauration locale, pas de buvette ou de camion, donc organisez-vous. Puisque nous sommes dans un agenda de l'été spécial instruments spéciaux, voici la bombarde, la cornemuse et le biniou par la Kevren Alr, musique qui provient des derniers maîtres sonneurs et réappropriée ici par cet orchestre qui, pour faire vivre la tradition bretonne, oscille entre contemporains, spectacles d'orchestre, de bagades et ballets.
Thank you.
odeur de Queen Yaman dans le studio ici à France Musique. Dérobée, pièce bretonne jouée par l'ensemble La Kevren Alre, orchestrée et dirigée par Roland Becker. Restez avec nous en fin d'émission avant 13h. Nous partirons en Suède pour découvrir comment une polka traditionnelle est devenue un standard de jazz. Je vous propose de la musique de Claude Debussy, à présent pour nous accompagner en chemin vers le château de Rosa Bonheur à Thomery, en Île-de-France. Le festival Rosa Bonheur dédié à la création féminine est en pleine seconde édition, avec l'idée de proposer de la musique de compositrice qui sortent un peu des chemins ou des sentiers, disons, un peu plus battus, mais toujours merveilleux, de Nadia Boulanger ou Clara Schumann. Par exemple, demain, vous entendrez au château Rosa Bonheur à 19h un petit opéra d'une heure de 1901, La Belle au bois dormant de Jeanne Vieux. Compositrice française, élève de Jules Massenet, nous ne croulons pas sous les enregistrements de la musique de Jeanne Vieux, ce qui prouve bien la nécessité de festivals comme celui de Rosa Bonheur. Je vous propose quand même quelque chose autour de La Belle au bois dormant par Debussy et Tchaïkovski.
Dormez toujours, dormez à moi.
la valse de la Belle au bois dormant de Tchaïkovski par Brigitte Engerer et Boris Berezovsky. Et juste avant, c'était la Belle au bois dormant de Claude Debussy. Sophie Kartauser était accompagnée par Eugène Asti. France Musique, il est 1h moins le quart. Nous avons reçu une petite carte postale de la Chaise-Dieu en Haute-Loire qui est en plein 55e festival jusqu'au 29 août. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce festival dans l'émission de demain. Son directeur Julien Caron nous écrit ceci. Venir au festival de la Chaise-Dieu est toujours une expérience unique, à la fois inspirante et ressourçante, tant il existe dans ce lieu hors du temps une alchimie unique entre les paysages, le patrimoine et la musique. À 2 heures de voiture de Lyon, l'abbaye de la Chaise-Dieu est assurément un lieu qui vaut le voyage. Austère et majestueuse, elle se dresse à 1100 mètres d'altitude, ce qui est en fait, dit-on, l'abbaye la plus haute d'Europe, fondée en 1043 par Robert de Turlande et reconstruite au XIVe siècle par le pape Clément VI. Elle accueille depuis 1966 des concerts symphoniques, des récitals de piano et offre un cadre particulièrement propice à la musique sacrée. En cette fin d'été, elle retrouve cette effervescence propre au temps du festival qui voit se succéder durant 11 jours, 27 concerts et de nombreux événements en accès libre. Lorsque le soir venu, ses portes s'ouvrent, appelant les festivaliers à gravir les marches de son immense parvis, le temps soudain s'arrête. Un vol de martinet passe entre les tours de l'abbatiale, le soleil qui se couche colore de rose au loin les monts du Sancy. Et quand l'orgue résonne pour préluder au concert, le pèlerinage musical a déjà commencé vers des hauteurs que seule la musique permet d'atteindre. Le Stabat Mater de Palestrina par l'ensemble Les Métaboles, dirigé par Léo Varinsky, œuvre que vous pourrez entendre par eux dimanche à la Chaise Dieu à l'Abbatiale à 15h. Les Métaboles donneront leur programme The Angels avec Palestrina, William Bird, Purcell et Britten. France Musique, il est 12h50. Comme tous les jours en fin d'émission, nous lorgnons sur la programmation des festivals par-delà nos frontières. Direction la Suède avec le festival Turing Taxing Hembygdsförening. Fête du folklore pour faire court dans la commune du Nygvarn dans le comté de Stockholm qui propose plusieurs événements autour de la culture suédoise. Ce dimanche 22 août de 12h à 16h par exemple, rencontre avec des musiciens du folklore suédois et des artisans locaux. Il y a un instrument suédois qui va retenir notre attention jusqu'à 13h dans notre agenda de l'été, le ou la nickel harpa, que l'on peut traduire par violon à clé ou harpe à clé. On en trouve des traces dès 1350, c'est un instrument qui ressemble à un violon mais dont le manche supporte un clavier. Comment ça se joue? On a demandé à une nickel harpiste, Clémence Carrie, chanteuse baroque qui a découvert la nickel harpa lors d'un festival en France à Sarlat. Elle a profité du confinement pour se perfectionner dans cet instrument qui est de la famille des vielles et dont les cordes sont accordées sur Do, Sol, Ré et La.
La particularité du nickel harpa, c'est d'avoir des cordes sympathiques, donc 12 cordes sympathiques, qui permettent de créer une grande résonance et qui résonnent grâce à la vibration des cordes mélodiques. Chaque corde mélodique a un clavier qui lui correspond, qui permet de faire toutes les autres notes. Au lieu de poser ses doigts sur le manche comme on le ferait au violon, on pose ses doigts sur les touches du clavier et chaque touche est placée en demi-ton.
Quel répertoire alors ?
Alors c'est du répertoire plutôt traditionnel suédois, de transmission orale. Libre à nous de faire le répertoire qu'on veut avec, puisqu'il permet, enfin, il y a une grande possibilité grâce au clavier qui est assez large. Et puis aussi, il y a des nickel harpa soprano et des nickel harpa ténor, donc ça permet de faire encore d'autres choses. Et il y a pas mal de nickel harpistes qui font, par exemple, des partitas de Bach.
Qu'est-ce qu'on peut jouer avec la nickel harpa? Ça, c'est la question. Alors, beaucoup de choses, de la musique traditionnelle suédoise au répertoire baroque. En parlant de musique traditionnelle, on va étudier une sorte de genre typique, la slängspolka, danse suédoise traditionnelle pour deux ou quatre personnes dansées sur place. Le couple se fait face, se tient les mains en croisant les bras, un peu comme Kate et Léo dans Titanic, et tourne sur place en essayant de ne pas se faire emporter par la force centrifuge. On va écouter maintenant un standard du genre, la slängspolka d'après Bis Kall, du nom de ce joueur de nickel harpa du 19e siècle, pêcheur de hareng. Le thème de cette slängspolka est tellement emblématique, ancré au cœur de la culture suédoise. Il évolue ainsi en fonction des modes. Hans Gardemar nous en livre une version pour chœur. Dum 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 d Slängspolka Efterbiskalle dans la version pour chœur arrangée par Hans Gardemar. Plus récemment, on entend les ensembles de jazz s'approprier ces thèmes traditionnels suédois pour en faire des standards. Nous ne sommes pas loin finalement des Greg et des Grieg et des Sibelius qui reprennent les mélodies traditionnelles de leur pays pour les actualiser selon le langage du moment. Symphonique au 19e siècle, et bien jazz au 20e et 21e siècle. La Slängspolka Efterbiskalle par le Jan Lundgren Trio. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à Alice Escriot qui a conçu cette séquence embarquement immédiat. Cette émission a été réalisée par David Travailleur qui avait aujourd'hui avec lui Titouan à la barre et YouTube Diego Aclopès. Cette émission a été préparée par Nelly Portal. Que reste-t-il de nos amours? C'était la question lancée en début d'émission pour se faire inviter pour aller voir Rhoda Scott demain à Ramatuelle. C'était la réponse 1, un souvenir qui me poursuit. Bon après-midi à tous. Continuez à soutenir les artistes en allant les voir. En vrai, ils ont besoin de vous. À demain midi sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.